Gérer l'urgence, refonder le modèle économique et reconstruire, voilà les trois étapes du PS2R présenté par le gouvernement. Un plan donc qui a été validé par le gouvernement collégial hier matin. Concilier la liberté de circuler et le droit à la sécurité pour l'État, il n'y a pas pour le moment d'alternative au verrou de Saint-Louis. Je rappelle que le juge des référés a rejeté la demande de la chefferie qui demandait la levée du dispositif de gendarmerie. L'actualité politique nationale, nouvelle série de consultations à l'Élysée. Emmanuel Macron cherche toujours son Premier ministre. Je reçois ceux qui veulent œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays, dit-il. Un otage libéré d'un tunnel à Gaza, il était retenu depuis le 7 octobre par le Hamas. 108 otages sont toujours aux mains de l'organisation terroriste palestinienne. Le sport est de 3. Après des mois de disette, le Belge Wout van Aert a remporté sa troisième victoire d'étape sur la Vuelta. Au classement général, pas de changement, l'Australien Ben O'Connor est toujours en tête. La météo en Nouvelle-Calédonie, le beau temps se maintient sur le nord et les Loyautés. Sur le sud de la Grande Terre et l'île des Pins, une bande de nuages élevés circule et contrarie par moments l'ensoleillement. Quant à l'Alizé de sud-est, eh bien il se maintient avec des rafales jusqu'à 30 nœuds. Les températures maximales restent stables ou baissent légèrement, mais sont généralement au-dessus des valeurs de saison. Elles s'échelonnent entre 24 degrés à l'île des Pins et 28 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Elle a une actualité sur le territoire.
Oui, sauvegarder, refondre et reconstruire. Ce sont les trois piliers de la démarche entreprise par le gouvernement pour rebâtir la Nouvelle-Calédonie après cette catastrophe économique et sociale provoquée par les émeutes. Pour tenter d'aller de l'avant, un plan intitulé PS2R a été présenté hier par 6 membres du gouvernement collégial et il a beaucoup été question de changement de modèle, Gilles Ménage.
La crise insurrectionnelle du 13 mai, les destructions, les incendies et les pillages ont conduit le territoire au bord du gouffre. Et pour éviter la chute, il faut quasiment tout remettre en question, repenser le modèle de fonctionnement d'une Nouvelle-Calédonie qui, pendant des années, a vécu, entre guillemets, au-dessus de ses moyens. C'est en substance le message délivré de manière collégiale par les 6 membres du gouvernement qui présentaient cette démarche. Un plan en 3 étapes avec d'abord les mesures d'urgence destinées à sauver le système de santé, le système électrique, les retraites, les transports, les salariés, les associations, le pouvoir d'achat ou encore à résoudre les urgences alimentaires. Mais ces mesures, déjà partiellement engagées par le Congrès, doivent s'accompagner d'efforts beaucoup plus conséquents, explique Christopher Gigès.
L'idée de ce plan, donc avec la partie refondation et reconstruction, c'est d'aller très loin dans des réformes, d'avoir un nouveau modèle économique et social, un nouveau modèle institutionnel, un nouveau modèle sociétal pour qu'on puisse faire avancer la Nouvelle-Calédonie après cette période qui reste compliquée. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de financer les infrastructures que nous avions par le passé. Brûler des entreprises, casser des emplois, ça a des impacts sur, notamment sur les plus fragiles. Donc oui, maintenant, il va falloir refonder, reconstruire, relancer notre économie calédonienne. Ça passera par des mesures incitatives, des mesures d'aide au pouvoir d'achat, des mesures de soutien. Mais il va falloir recréer de la richesse pour avoir un système de solidarité qui est à la hauteur de celui qu'on a eu par le passé.
Il faut donc, selon le gouvernement, repenser le modèle calédonien. Pas forcément dépenser moins d'argent, selon Yannick Slamet, mais le dépenser mieux.
La situation du pays, elle est telle qu'à un moment donné, il faut avoir une réflexion sur ce que l'on paye et sur ce que l'on dépense. Je ne suis pas persuadé, moi, que le volume aujourd'hui de finances que l'on consacre au fonctionnement du pays soit bien utilisé. Je pense que c'est plutôt de dire, avec des moyens financiers constants, peut-être ce qui est aujourd'hui, c'est peut-être de pouvoir faire mieux. Mais il y aura quand même des sacrifices structurels. Plusieurs structures font sûrement double emploi, ou peut-être qu'elles gagneraient à être complémentaires. Ça, ce sont des sacrifices de comportement. Moi, je ne parle pas de sacrifices financiers, il est possible que l'on en fasse, mais je pense qu'il y a peut-être une organisation meilleure à faire, aussi bien dans l'administration que dans les structures, que dans les provinces, que dans les communes, oui.
Il va donc falloir rationaliser, et cela est vrai dans tous les secteurs de la vie économique institutionnelle. Qui sait par exemple qu'il y a en Nouvelle-Calédonie pas moins de 130 impôts différents dont on ne sait pas pour certains ni à quoi ils servent, ni pourquoi ils ont été créés. Et selon l'exécutif, la rationalisation doit également s'appliquer dans la gestion du foncier ou dans celle du système de santé. En matière institutionnelle, il est nécessaire de réduire le nombre de sociétés publiques, de fusionner des directions, de simplifier la gestion des compétences. Mais pour faire tout cela, il est nécessaire de dépasser les clivages politiques, explique Thierry Santa.
Malgré ce que nous avons vécu tous, malgré ce lien distendu entre nous après les événements du 13 mai, nous sommes capables malgré tout de continuer à travailler ensemble dès lors qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Pour l'avenir de notre pays, nous devons être capables de mettre de côté nos logiques antagonistes traditionnelles, indépendantistes, non indépendantistes, et qu'ensemble, on envisage les meilleures solutions pour les Calédoniens. Et ce faisant, on est quelque part dans la même démarche que font nos parlementaires, puisque vous le savez, hein, ils font un certain nombre de démarches en commun. Et donc c'est une manière d'inciter tout responsable politique, à quelque niveau qu'il se trouve, de reprendre les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Ce plan qui va être accompagné techniquement par l'État, notamment par des juristes et des fonctionnaires de Bercy, a pour vocation à lui être transmis fin octobre, c'est-à-dire avant le vote de la loi de finances 2025 à l'Assemblée nationale. Notez que les Calédoniens seront invités à donner leur avis sur les solutions à apporter à travers un questionnaire en ligne qui sera ouvert jusqu'au 19 septembre sur le site du gouvernement.
Merci Gilles Ménage. L'actualité institutionnelle et le congrès de la Nouvelle-Calédonie à nouveau réunis ce matin en séance publique. Les élus examineront pour la deuxième fois la proposition de résolution déposée par Calédonie Ensemble, demandant à l'État un plan quinquennal d'accompagnement pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Jeudi dernier, les groupes Les Loyalistes avaient obtenu le vote d'une motion préjudicielle destinée à renvoyer le texte en commission afin de tenir compte dans la rédaction de toutes les sensibilités politiques et d'obtenir ainsi l'unanimité du vote. Et puis c'est demain, le 29 août, qu'a lieu le renouvellement du président et du bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Roch Wamitan devrait être candidat à sa propre succession. Et face à lui, les loyalistes présenteront la candidature de Naya Wateu. Alors pourquoi se présente-t-elle? Quel est le message qu'elle veut transmettre? Et quelle est son analyse du fonctionnement du Congrès? Eh bien, nous en parlons avec elle, puisque Naya Wateu sera tout à l'heure notre invitée du matin à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Le plan sauvegarde, refondation, reconstruction présenté par le gouvernement va-t-il être efficace, selon vous, pour rebâtir la Calédonie après la catastrophe économique et sociale provoquée par les émeutes? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier. 98% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS trouve-t-on anormal que l'Azerbaïdjan soit présente au 53e sommet du Forum des îles du Pacifique qui se tient à Tonga. Ils ne sont donc que 2% à trouver normal que l'Azerbaïdjan y soit présente. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et justement à Tonga, le Forum des îles du Pacifique aurait validé la venue de sa mission sur le territoire. Elle devait initialement venir faire un état des lieux après les graves troubles des derniers mois avant ce forum. Finalement, elle viendrait en octobre. L'actualité judiciaire maintenant, et vous le savez, le juge des référés a donc rejeté la requête de la chefferie de Saint-Louis qui demandait la levée des verrous sur la RP1. La juridiction administrative considère d'une part que la notion d'urgence à lever ces verrous n'est pas justifiée et d'autre part que le rétablissement de la sécurité des usagers de la route provinciale était prioritaire. Un jugement qui satisfait bien sûr les représentants de l'État, Léana Colombo.
Oui, c'est samedi le 24 août que les autorités coutumières de la tribu de Saint-Louis ont saisi le juge des référés pour réclamer l'ouverture de l'accès à la RP1 à la hauteur de la tribu. Dans leur requête, elles dénonçaient l'interdiction imposée par le haut commissaire à toute la population de la tribu d'entrer et de sortir sans autorisation. Depuis le 20 juillet, deux verrous de gendarmerie sont en effet installés en amont et en aval de la tribu de Saint-Louis pour protéger l'axe qui a été le théâtre de nombreuses exactions et affrontements depuis le mois de mai. Ce dispositif exceptionnel a été mis en place par la gendarmerie parce qu'il était impossible d'assurer la sécurité sur la RP1. Les automobilistes ont en effet été victimes de carjacking et de coups de feu. Pour autant, les requérants demandaient la levée en urgence de ces verrous dont ils estimaient la légalité douteuse. Une requête rejetée par le juge des référés, la réaction du secrétaire général du Haut-Commissariat Stanislas Alfonsi.
Même s'il n'est pas de coutume, il n'est pas usuel de commenter une décision de justice, on ne peut de notre côté qu'être satisfait, que la justice ait reconnu que nous avons dû, de manière très spécifique, dans un endroit où des conditions très spécifiques sont constatées, mettre en œuvre des dispositifs inusuels. C'est une restriction de la liberté de circulation, nous en sommes conscients. Ça n'est pas une interdiction de circuler qui est posée par ce dispositif. Mais nous devons impérativement concilier cette liberté fondamentale de circuler avec une autre liberté fondamentale qui est le droit à la sécurité. Et à cet endroit, la sécurité des usagers, la sécurité des riverains n'est pas garantie sur cet axe, en tout cas sur ces quelques kilomètres de la route provinciale numéro 1. Et c'est pour ça que les verrous sont indispensables aujourd'hui. Nous n'avons pas de solution alternative. C'est une solution qui n'est pas pleinement satisfaisante. Nous avons parfaitement conscience des contraintes que cela représente. Néanmoins, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui. Et la justice, dans une certaine mesure, a compris ce difficile exercice d'équilibriste.
Le juge des référés rejette la requête de la chefferie de Saint-Louis, mais il s'agit d'un référé liberté rendu en urgence. L'affaire n'est pas forcément terminée puisque les requérants peuvent bien sûr faire appel. En attendant, tout le monde reconnaît que les verrous de Saint-Louis sont un dispositif exceptionnel, souligne Stanislas Alfonsi. Mais pour les lever, il faut que la sécurité soit rétablie.
Pour que ce soit possible, il faut que la sécurité sur l'axe soit établie. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Lorsqu'on fait des tests et qu'on essaie de faire circuler des véhicules, par exemple des véhicules de gendarmerie, ils sont pris à partie de manière très violente et ils sont l'objet de tirs directs. Alors ce sont des véhicules qui sont équipés pour faire face à ce genre de contraintes, évidemment, mais ça reste un risque très très élevé et donc on ne peut pas faire courir ce risque à des riverains et à des civils. Donc tant que la sécurité n'est pas rétablie sur l'axe, tant qu'elle n'est pas garantie, du côté de l'État, nous ferons ce que nous pourrons pour empêcher la circulation à cet endroit. Nous n'avons pas d'autre choix. On ne le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce qu'on y est obligé. C'est agir en toute responsabilité. Eh bien, en toute responsabilité, parfois, on pose des actes et des actions qui ne sont pas pleinement satisfaisants. Mais quand on n'a pas d'autre choix, les responsabilités, on les prend.
Et dans un communiqué, le haut-commissaire prend acte de ce jugement en référé. Il réaffirme son soutien à l'ensemble des habitants du Mont d'Or, victimes de cette situation d'insécurité créée, et je cite, « par des individus irresponsables et très dangereux. Tout sera fait pour rétablir la sécurité sur la route provinciale », conclut Louis Lefranc.
Et puis toujours devant le tribunal administratif, les recours du MNIS contre la province Sud ont été eux aussi rejetés. Les requérants voulaient faire annuler la réforme de l'aide médicale gratuite adoptée mi-juillet. Le ticket modérateur était passé de 10 à 20%. Le juge des référés a donc estimé que l'urgence n'était pas caractérisée pour ces titulaires de l'AMG. L'avocate de la province Sud avait aussi rappelé que la Chambre territoriale des comptes avait invité les élus à introduire ce ticket modérateur à 20%. Il est 6h43, vous écoutez Radio Rythme Bleu après la pause, l'actualité nationale et ce grand casting pour trouver un Premier ministre qui continue.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et toujours personne en vue pour remplacer Gabriel Attal à Matignon. Pas de Premier ministre pour Emmanuel Macron qui a entamé une nouvelle série de consultations. Et c'est une situation qui est plutôt floue, Arthur Delaborde.
Effectivement, je reçois tous ceux qui veulent bien venir continuer à œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays. Voilà les quelques mots lâchés ce soir par Emmanuel Macron à propos de ce nouveau cycle de consultations. Le président ne dit pas grand-chose, mais on comprend tout de même qu'à ses yeux, le RN et les Insoumis n'œuvrent pas pour l'intérêt supérieur de la nation, puisqu'ils n'ont pas reçu de carton d'invitation. Ce deuxième tour de discussion se révèle beaucoup moins préparé que le premier qui s'est tenu hier et avant-hier. Très peu d'informations communiqué par l'Élysée, pas de programme précis. À ce stade, l'entourage du président confirme seulement qu'il a reçu ce matin les indépendants du groupe Liotte, qu'il a ensuite déjeuné avec le patron du Modem, François Bayrou. Les LR de Laurent Wauquiez font eux savoir qu'ils ont rendez-vous demain avec le chef de l'État. En tout cas, certains des interlocuteurs d'Emmanuel Macron laissent entendre que les concertations pourraient encore durer et que le nom du nouveau Premier ministre ne devrait pas être connu avant au moins 8 jours.
Arthur Delaborde pour Europe 1, Emmanuel Macron qui a donc écarté la nomination d'un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Depuis, l'Alliance de gauche crie au déni de démocratie et la France insoumise appelle même à une manifestation le 7 septembre prochain. Mais pour le moment, le parti de Jean-Luc Mélenchon est bien seul dans son initiative, puisque le Parti socialiste refuse de suivre cet appel. « Nous ne sommes pas dans cette stratégie insurrectionnelle », dit un cadre du PS, qui souhaite donc rompre avec la ligne insoumise. Réunie en bureau national, la moitié du parti à la rose a même demandé la reprise des discussions avec Emmanuel Macron, et ce contre l'avis de son premier secrétaire Olivier Faure. Hélène Geoffroy est opposante à l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, et elle explique cette position.
On voit bien que la stratégie et l'agenda de Jean-Luc Mélenchon est autre. C'est celui de provoquer une présidentielle anticipée. C'est hors de question que nous nous rentrions dans ce jeu qui va continuer à tendre les Français qui le sont déjà suffisamment, alors qu'ils ont plein d'autres soucis.
Et certains députés PS poussent la candidature de Bernard Cazeneuve à Matignon, alors que la France insoumise s'y oppose fermement. Et c'est donc dans ce contexte très particulier que Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale démissionnaire, assurait la traditionnelle conférence de presse de rentrée. À plusieurs reprises, elle a souligné le caractère inédit de ce retour en classe sans gouvernement de plein exercice et donc sans réforme majeure. Mais pour autant, elle s'est voulue rassurante pour les élèves.
Aujourd'hui, la rentrée est prête. Les affaires courantes ne sont ni un temps suspendu pour l'école, ni un temps mort, parce que l'école n'attend pas.
Et plusieurs décrets sont tout de même gelés depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, notamment le caractère obligatoire du brevet pour passer en seconde qui devait entrer en vigueur cette année, la réforme de la formation initiale des enseignants est en suspens, ou encore la refonte des programmes scolaires en primaire qui est reportée. En revanche, plusieurs expérimentations sont maintenues, comme le port de l'uniforme dans une centaine d'établissements, ou encore l'interdiction du téléphone portable dans l'enceinte de 200 collèges, une mesure qui devrait être généralisée en 2025 si le nouveau gouvernement le permet. Il est 6h47, vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité, ce sera juste après la pause avec notamment un hommage après la mort d'un gendarme tué lors d'un refus d'obtempérer.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec, je le disais, donc un rassemblement en mémoire d'un gendarme tué en métropole hier matin pour nous à la sortie de l'autoroute A8 à hauteur de Mougins, près de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. L'agent est mort après un refus d'obtempérer. Le conducteur est un Cap-Verdien de 39 ans, testé positif à l'alcool. Et son casier judiciaire compte 10 condamnations pour des infractions, mais aussi des atteintes aux personnes. Sur place, l'émotion est grande, notamment dans la brigade du peloton motorisé de Mandelieu-Lanapoule, comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.
Devant les grilles du peloton autoroutier de Mandelieu, plusieurs bouquets de fleurs ont été déposés par des anonymes, des policiers aussi. La douleur est grande chez les membres des forces de l'ordre et particulièrement chez les collègues gendarmes d'Éric Comines, l'adjudant Jérôme Juel.
On se fréquentait en dehors, je perds un ami et je perds un camarade. C'est quelqu'un qui était très très humain, toujours intègre, toujours calme, posé. Il était très proche de ses enfants, très proche de sa femme. Il était comme au travail, au niveau de sa famille. Quoi, voilà.
Et pour profiter de sa famille, sa femme et ses deux enfants de 12 et 16 ans, l'adjudant s'apprêtait, après 30 ans de service, à prendre sa retraite. Le capitaine Romain Pouillou, commandant second de l'escadron de sécurité routière des Alpes-Maritimes.
C'est un militaire exemplaire, apprécié de tous. Et aujourd'hui, il y a un vide, on a un grand vide au fond de notre cœur. Et aujourd'hui, on est dévasté d'avoir perdu un homme bien.
Tout a basculé en quelques secondes au cours d'un banal contrôle routier en début de soirée sur une route très fréquentée.
C'est dangereux aujourd'hui pour nous, on ne sait pas sur qui on va tomber. Des fois, vous avez des gens qui ne vont pas s'arrêter parce qu'ils n'ont pas de permis, parce qu'ils n'ont pas d'assurance, alors qu'à la base, ça reste un délit mineur. Ils s'arrêteraient, on ferait la procédure. Et s'en restera là.
À Mougins, Cannes et Mandelieu, plusieurs hommages seront rendus demain à l'adjudant Éric Comines. Mandelieu, Frédéric Michel, Europe 1.
Quant à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, il a réagi à ce décès en déclarant que ce qui s'était passé était un acte criminel. En bref, deux associations catholiques portent plainte contre Charlie Hebdo pour incitation et provocation à la haine religieuse. En cause, la publication le 15 août dernier d'une caricature de la Vierge Marie. Elle apparaît grimée de boutons entourée d'injures avec cette légende « Variole du singe, première apparition du virus en Europe ». Et puis quelques jours après l'incendie de la synagogue de la Grande Motte, un grand rassemblement a eu lieu sur la place de la Comédie à Montpellier pour dire stop à l'antisémitisme. Près de 1500 personnes étaient réunies avec des pancartes arborant des messages tels que « Nos vies valent plus que l'importation du conflit israélo-palestinien ». Et c'est également le message que souhaite faire passer Jonathan Arfi, le président du CRIF.
Surtout, il faut accepter de voir aujourd'hui la haine des Juifs telle qu'elle est. Elle prend prétexte de la haine d'Israël, elle prend prétexte du conflit au Proche-Orient. Bien sûr, l'antisémitisme, malheureusement, s'est banalisé. D'abord, ça se traduit statistiquement. En 2024, nous avons 887 actes antisémites sur le premier semestre, c'est-à-dire une hausse de 200% par rapport à la même période en 2023.
Et après ce constat, quelle solution apporter ? Eh bien, beaucoup estiment dans ce rassemblement qu'un meilleur contrôle des dérives sur les réseaux sociaux serait d'ailleurs en tout cas une première piste à prendre en compte en urgence. Cela fait maintenant 326 jours qu'il était aux mains du Hamas. Un homme, Kaïd Farkan Al-Kadi, 52 ans, a été rapatrié par Israël. Pour rappel, 251 personnes avaient été kidnappées le 7 octobre 2023, le jour des massacres du Hamas dans le sud d'Israël. Apparemment, cet otage libéré est en bonne santé. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1.
Oui, en début d'après-midi, l'hélicoptère qui transportait Kaïd Farhan El-Kadi, désormais ex-otage, s'est posé à l'hôpital de Beersheva, grande ville du sud d'Israël, aux portes du désert du Negev. C'est là que ce père de famille d'une cinquantaine d'années a retrouvé ses proches et ses 11 enfants après presque un an passé en captivité. Bédouin, résident d'une ville du sud d'Israël, Kaïd Farhan El-Kadi travaillait en tant que garde de sécurité dans un kibboutz proche de Gaza. C'est là qu'il avait été enlevé, pris en otage le 7 octobre. Selon l'armée israélienne, il a été retrouvé seul dans un tunnel au sud de l'enclave palestinienne. Mais du déroulé de l'opération qui a permis de le secourir, on sait encore très peu de choses. L'armée israélienne ne veut pour le moment donner aucune précision. Elle évoque, je cite, « la sécurité des otages et de ses troupes à Gaza », laissant supposer d'autres opérations potentiellement en cours.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1. À l'heure actuelle, le Hamas détient toujours 108 autres otages. Il est 6h passées de 52 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actualité sportive, notamment un petit côté du Tour d'Espagne en cyclisme avec cette troisième victoire d'étape pour Wout van Aert. Et puis il sera aussi question de football puisqu'on joue ce matin les barrages retour de la Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le Pizza & Pasta a le plaisir de reprendre son service à table. Un vaste choix de pizza, pâtes, risotto, pièces de viande et desserts. Le Pizza & Pasta Takeaway est toujours disponible. Nous avons hâte de vous retrouver. Pizza & Pasta, 24 30 70. Plus d'infos sur notre page Facebook Pizza & Pasta.
Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Du cyclisme à la une de l'actualité sportive ce matin et trois doigts pointés vers le ciel. Wout van Aert s'est offert sa troisième victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne. Le maillot vert a remporté la 10e étape la nuit dernière. À l'initiative de l'échappée du jour, il aura véritablement animé toute la journée. Le Belge a faussé compagnie à tous ses compagnons d'échappée les uns après les autres. Le seul qui aurait pu le battre est le Français Quentin Pachet. Ils sont restés ensemble jusqu'à 150 mètres de l'arrivée où le Belge a placé une accélération impossible à suivre. Écoutez la réaction du Français.
Oui, bon, ce n'est pas évident de trouver un endroit où l'attaquer, parce qu'il est fort partout. Donc j'ai juste suivi sa roue en espérant je ne sais quoi. J'ai juste tout donné sans réfléchir. Je ne peux qu'être satisfait, car je me suis battu avec des gars très forts, donc oui.
Au classement général, pas de changement. L'Australien Ben O'Connor est toujours en tête avec 3 minutes 53 d'avance sur Primoz Roglic et 4 minutes 32 sur Richard Carapaz. Le premier Français, David Gaudu, est 10e à 6 minutes 32 du leader. Prochaine étape, ce sera la nuit prochaine, longue de 166,4 km autour de Padrone, où les coureurs devront gravir deux ascensions de 2e et 3e catégorie, et ce, par deux fois. Je le disais, en football, on joue les barrages retour de la Ligue des Champions. Trois matchs en cours ce matin, puisqu'on joue depuis 6 heures. C'est la mi-temps pour ces trois rencontres. Le RB Salzbourg est en ballotage favorable face au Dynamo de Kiev, puisque les Autrichiens s'étaient imposés 2-0 la semaine dernière contre les Ukrainiens. Et il y a un but partout à la mi-temps dans cette rencontre. Quant aux Young Boys de Berne, ils sont en déplacement sur la pelouse du Galatasaray après leur victoire la semaine dernière, 3-2 à l'aller. Il y a 0-0 et puis 0-0 également entre le Sparta Prague et le Malmö FF avec un avantage de 2 buts en faveur du Sparta Prague après le match aller. En tennis, on joue le premier tour de l'US Open. Constant Lestienne a été sèchement sorti par l'Australien Jordan Thompson. Quentin Alice est face au Finlandais Otto Virtanen. Ça passe en revanche pour le triple vainqueur du tournoi de Nouméa, Adrian Manarino, qui a battu Borna Koric en 3-7. Hugo Gaston est lui opposé à l'Argentin Facundo Diaz Acosta. Il a concédé le premier set. Arthur Fils est contre l'Américain Lerner Tien. Il domine pour l'instant les débats en ce début de match. Chez les femmes maintenant, ça passe facilement pour Jessica Ponchet contre la Chinoise Sei Sei Zhang, tandis que Caroline Garcia a été sortie par la Mexicaine Renata Zarwaza.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les prévisions du temps avec vous Thierry, en gros c'est du beau temps avec du vent et des températures assez chaudes quand même.
Oui, ce matin le soleil dominera largement avec temporairement quelques nuages qui aborderont la pointe sud, les Loyautés et la côte est. L'Alizé lui sera orienté est-sud-est ce matin autour des 15 à 20 nœuds. Il sera plus faible en matinée sur le sud et l'ouest entre 10 à 15 nœuds voire 5 à 10 nœuds en début de journée sur l'ouest. Cet après-midi, le beau temps se maintient sur le nord et les Loyautés. Sur le sud de la Grande Terre et l'île des Pins, une bande de nuages élevés circulera et contrairement par moments l'ensoleillement. L'Alizé orienté sud-est pour cet après-midi. Il se maintient autour des 15 à 20 nœuds. Il se renforcera autour des 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur la côte ouest et la pointe nord. Sur la pointe sud et l'île des Pins, il restera plus faible et compris entre 10 et 15 nœuds. Les températures maximales restent stables ou en baisse légèrement, mais sont généralement au-dessus des valeurs de saison. Elles s'échelonnent entre 24 degrés sur l'île des Pins et 28 degrés. Ce sera sur la côte ouest rapidement pour cette nuit. Ce sera un ciel étoilé pour la côte ouest. Ailleurs, les passages nuageux alterneront avec les éclaircies. Donc pour ce soir.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.